Salut, je suis pompier en Charente-Maritime. C'est un appel à la lutte et à la révolte.
Allô Daniel, c'est toujours Jonathan au lycée Joseph Lotte dans le Morbihan. Eh ben, ça se passe encore super bien. Là, on est parti, on est juste devant la Chambre des Commerces à Pontivy, en train d'organiser un festival improvisé. Ça se passe vraiment très très bien. Les gendarmes nous ont cernés, mais ils n'ont pas l'air d'être du tout violents, contrairement aux ordres qu'ils ont reçus. Donc ça se passe bien. C'est génial, franchement. On est tous encore super motivés. Et tout ce qu'on attend, c'est que le CPE sera partiré. On n'arrêtera pas tant que ce ne sera pas fini, vraiment fini. Donc voilà, plus la bâtie vite fuit.
Oui, bonjour Daniel. J'ai 55 ans, j'étais gendarme, je viens de prendre la retraite après plus de 30 années passées dans cette institution. Et je voudrais simplement dire que je suis assez écœuré par des anciens 68ards. Enfin, anciens 68ards, c'est un pléonasme. Je dirais des vieux cons qui, en 68, étaient sur les barricades, alors qu'on était en pleine période de croissance et les 30 glorieuses. Et que maintenant, qu'ils s'en prennent et qu'ils critiquent les jeunes qui, eux, connaissent la précarité et vont se faire escroquer avec ce CPE. Car, ils n'auront absolument rien du tout. Ils ont la précarité, oui, c'est ça. Alors, c'est une culture maintenant mondiale, soi-disant. Alors, donc, il faut la pratiquer aussi chez nous. Non, c'est pas vrai, ça se refuse. Du fric, il y en a plein. Et il y a très peu de monde, mais il y en a de plus en plus quand même qui ont plein de fric, qui prennent l'argent de la planète pour eux. Et il faut dire aussi qu'au bout de 2 ans, qu'est-ce qui va se passer? Ces gens vont se retrouver au chômage. Ils vont se retrouver avec un CNE peut-être. Ils vont repartir pour 2 ans. Et au chômage, les acédiques vont exploser aussi. C'est une fumisterie simplement qui est dans l'intérêt simplement du gouvernement actuel réactionnaire complètement. J'ai réussi à ce que mes enfants, j'ai fait ce qu'il fallait, enfin en tout cas pour leur payer des études. Mon fils est ingénieur, ma fille est enseignante. J'en suis très très heureux pour eux. Je voulais qu'ils fassent ça pour pas qu'ils connaissent ce que j'ai connu aussi, un peu la galère. Mais voilà, c'est tout et ça me révolte. Je te remercie d'écouter ce message, qui passera ou qui passera pas peut-être, mais en tout cas j'ai besoin de le dire.
Bonjour Daniel, bonjour à tous, c'est Alaïs à Paris. Nous sommes en ce moment en train d'occuper la gare de Lyon. Donc pour le moment tout se passe bien, il y a les forces de l'ordre qui sont en train de se regrouper, probablement en train de réfléchir à ce qu'ils vont faire, mais nous de notre côté tout est festif, tout se passe très très bien, il n'y a aucun débordement, voilà. Donc il avait été prévu de bloquer les axes de circulation, c'est ce qu'on est en train de faire. On est très contents de nous et mobilisez-vous bien tous dans vos activités respectives et à très bientôt.
Bonjour Daniel, Hervé, je suis enseignant dans un lycée des Hauts-de-Seine. Aujourd'hui devait être une journée normale, banale, avec des élèves, des enseignants, des cours. Or, ce matin, la police est arrivée en même temps que les élèves et a voulu rentrer. Aussitôt, les élèves ont fait barrage, s'en est suivi quelques mouvements sans trop de gravité, mais surtout par la suite, quelques lacrymogènes. Les policiers sont finalement rentrés dans le lycée et les élèves étaient dehors, un peu écœurés et pleins de lacrymogènes dans les yeux et ont fini par partir. Voilà, je n'ai pas fait cours, mais bon, cet gouvernement a des actions un peu bizarres. Ça restera comme une anecdote. Ce qui n'est pas anecdotique par contre, et ce qui est quand même grave, c'est que le proviseur n'était même pas tenu informé de la visite des policiers. À bientôt.
Bon, moi je vous laisse un message en région parisienne pour vous dire que je suis extrêmement choqué par votre émission. On paye des impôts, non pas pour entendre autant de saloperies en permanence. Je trouve que vous seriez bien avisé de faire parler des étudiants qui veulent travailler, des étrangers qui sont ici en France pour voir nos universités. Quelle image vous leur donnez dans la radio à encourager toute cette merde, il n'y a pas d'autre mot. C'est absolument lamentable. Si vous voulez casser le pays, vous continuez avec nos impôts et c'est lamentable de la part de France Inter et du type que vous êtes. Voilà, désolé. C'est absolument minable.
J'observe en écoutant les différents messages que la plupart des messages des gens qui sont contre le CPE sont des analyses fondées, réfléchies, de gens qui parlent avec leur cœur et avec leur cerveau, alors que les gens qui sont pour le CPE se contentent le plus souvent d'envoyer des insultes, des injures contre les autres, en particulier contre les fonctionnaires. J'ai été moi-même fonctionnaire. Et je pense que beaucoup de fonctionnaires n'ont pas de leçons de conscience professionnelle à recevoir des autres. Beaucoup font leur travail aussi bien, parfois mieux, que certains donneurs de leçons. Voilà. C'était Guy, un auditeur du département de l'Ain. Merci beaucoup. Continuez. Je vous encourage.
Et il va donc parler à 20h. Une promulgation molle et ambiguë. Et prochainement, une espèce de grenade sociale. Le temps d'arriver à se revoir en juin, par exemple. Tiens, la Coupe du Monde. C'est futé. Et ensuite, juillet-août. Classique. Des vacances. Une spécialité de ce gouvernement. Mais n'oublions pas le CPE et une première étape. Nous ne reviendrons jamais en arrière. Bientôt, tout le monde sera en précarité. Battez-vous les jeunes. Une angoisse en passant. La force de frappe entre les mains d'un psychorigide. Bonne journée.
Salut Daniel et toute l'équipe. C'est Guillaume de Vienne. Là, je suis dans ma voiture. Je viens d'être bloqué par un barrage étudiant. Anti-CPE, voilà, j'avais envie de leur dire de poursuivre la lutte. Je pense que les jeunes d'aujourd'hui ont pris leur destin en main et qu'ils sont au cœur d'une lutte sociale importante et que le combat se gagnera dans la durée. Les vacances approchent et ça ne doit pas être les vacances politiques. Donc je les encourage vivement à poursuivre leur mouvement même pendant les vacances. Voilà, il ne faut rien lâcher. Bon courage à tous. Ciao.
Galouzo, s'il vous plaît, veuillez retirer votre pénis. Oh pardon, votre CPE.
Quand est-ce que Mermet va être viré là? C'est pas possible ça. Moi, c'est pas possible. Quelle image donne-t-on de la France à l'étranger? Comment voulez-vous que les industries étrangères puissent venir s'installer en France quand on voit le merdier et la chienlit que c'est? C'est pas possible, ça.
Juste un petit message pour tous les grincheux, les tièdes, les sans-espoir, les sans-rêve. Cette phrase sur la tombe de Malik Oussekine, tué le 6 décembre 1986. Ils pourront couper toutes les fleurs, mais ils n'empêcheront pas la venue du printemps.
Et voilà, les messages sur le répondeur hier, c'était un policier, maintenant on rencontre des pompiers, des gendarmes qui s'épanchent sur ce répondeur, c'est vraiment n'importe quoi, ce pays devient n'importe quoi, et on vient d'en administrer la preuve, c'est quelque chose de décadent. Que faire contre la décadence de la France? Eh bien, on va peut-être, en attendant qu'il parle... On va essayer de se remonter le moral français, puisqu'en effet, c'est un Français qui détient le record mondial de l'entartage. Et oui, c'est un Français. Le 20 mars 2006, un intellectuel français, un philosophe, Bernard-Henri Lévy, a été entarté pour la 7e fois. C'était le 20 mars 2006. Au Salon du Livre. 7 fois entarté, Bernard-Henri Lévy, ça vaut quand même une émission, ça vaut quand même une heure, avons-nous pensé, avec toute l'équipe de là-bas, si j'y suis. Et ça tombe bien parce qu'il y a un livre qui sort sur Bernard-Henri Lévy, c'est pas le premier qui sort sur lui, c'est le 6e ou le 7e, c'est un monsieur sur lequel on écrit des livres, et celui-ci s'intitule « Une imposture française », il est de Nicolas Beau et d'Olivier Tosseur, qui sont deux journalistes, l'un, Nicolas Beau, est au Canard Enchaîné, Olivier Tosseur, lui, est à au Nouvel Obs, et ils ont commis ce livre dont ils vont vous causer. Bon, bien sûr, c'est un livre qui analyse certains aspects de la vie et de l'œuvre de Bernard-Henri Lévy, mais vous allez voir, ce qui est beaucoup plus passionnant encore que le livre lui-même, c'est tous les échos et comment ce livre est comme un miroir, comme Bernard-Henri Lévy est comme un miroir qui montre, disons, le système médiatique et politique français. C'est une heure que nous allons passer ensemble, après les messages qui vont suivre, dont certains suivent l'émission émission, sont des commentaires sur l'émission d'hier, qui était avec Marie, cette jeune femme conseillère de la NPE, qui a publié un bouquin, et qui était une nouvelle diffusion d'une émission que nous avions faite avec elle en septembre dernier, où elle racontait de l'intérieur, en tant que conseillère de la NPE, comment les chiffres du chômage sont tout à fait douteux et qu'il faut en douter, il faut discuter ces chiffres. Ça tombait bien, évidemment, comme par hasard, ils sont publiés aujourd'hui. Vous n'avez pas manqué de faire des commentaires sur ce sujet, comme sur bien d'autres, sur le répondeur de la base. Si j'y suis, au 01 56 40 37 37.
Bonjour, Pierre Viromnik, dans l'Hérault, retraité conseiller à l'Agence pour l'emploi de Montpellier dans l'Hérault et du Gigant dans le Gard. D'après ce que j'ai écouté hier, tout ce qui a été dit est tout à fait vrai et je suis très heureux que Marie ait enfin pu le dire à tous, car de nombreux conseillers pensent comme elle, dont moi, bien que j'ai quitté la NPE, et je vous salue vraiment d'oser dire ce que tout le monde pense, que la NPE ne fait pas ses missions à partir du moment où elle fait la cachotterie de chiffres et elle en passe de devenir une société capable de faire que des radiations. Bien sûr, les gens résistent. Jusqu'à quand ? Salut, merci encore, c'était super.
Je vous appelle au sujet des chiffres du chômage. Vous ne trouvez pas indécent quand même que l'on rabâche maintenant à toutes les heures depuis cette nuit que le chômage a baissé alors que les gens bien informés, enfin les gens informés en tout cas par votre émission, savent que c'est une tricherie, hein, c'est pas vrai, c'est tous des chiffres tronqués, ce sont tous des chiffres. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de, je sais pas, de faire quelque chose suite à toutes ces émissions? Se mobiliser, faire, je sais pas moi, des choses qui... Bon, si par hasard vous avez une idée, ce serait bien de faire quelque chose, parce qu'il y en a ras-le-bol, hein, d'entendre le chômage baisse, alors que tout le monde sait que c'est pas vrai.
Oui, bonjour Daniel. Je voulais te dire que j'ai été bouleversée par le témoignage de la conseillère à NPE, car j'ai été moi-même agent à NPE pendant 20 ans, et ce qui était pour moi au début une mission à caractère social et humain, puisque j'avais une formation psycho et sociaux, s'est transformé au fil du temps en agent commercial, gérant des chiffres, des clients et des listings. De demande de chômeurs, les gens sont devenus des demandeurs d'emploi, d'usagers sont devenus des clients. Quant à nous, les agents de la NPE, nous sommes devenus par la contrainte polyvalents. Résultat, tous nos savoir-faire se sont dilués dans un fourre-tout informel et déstructurant. Les tâches administratives sont devenues tellement lourdes que nous perdions de plus en plus de vue l'objectif primordial de notre travail, celui d'écouter les autres et de les orienter et de les placer au mieux pour eux. Les chefs d'agence sont venus se greffer là-dessus sans aucune expérience ni aucune formation professionnelle, psychologique ou sociale. Ils s'en sortaient tous de psy subdeco. Ils ont cassé les agents en leur appliquant des méthodes autoritaires sans aucune possibilité d'échange avec eux. On était devenus des robots exécutant des absurdités administratives sous une pression constante et effrénée. La seule issue à tout ça était la maladie. Je garde une très très grande amertume de tout ça, le sentiment d'un immense gâchis. À casser les gens comme ça, on leur enlève ce qu'ils ont de meilleur, c'est-à-dire leur propre humanité. Quand on exécute des tâches répétitives, absurdes, ennuyeuses, hachurées, découpées en morceaux, et que l'on perd toute humanité, la finalité, c'est la folie, c'est la seule issue.
Ben voilà, je suis chômeuse de longue durée et puis hier on était le 30 mars et au courrier j'avais une lettre qui m'est arrivée de la NPE qui me convoquait pour le 29 mars, donc la veille, à 9h et qui me précisait bien que si, à défaut de présentation, je serais contraint conformément à la loi d'annuler votre inscription comme demandeur d'emploi. Voilà, donc avant même que j'ai reçu le courrier, ben j'étais radiée. Merci la NPE.
Alors, coucou, c'est Yannick de Paris. Bon, alors avec tout ce qui se passe, nous continuons. C'est-à-dire qu'il y a toujours rendez-vous au Café Repère, samedi 1er avril. La fête des poissons, c'est superbe. Paris 20e, sur rue Sorbier, au café Le Lieu dit. Voilà. Nous serons comme des poissons dans l'eau, c'est sûr, avec le temps qui passe. Ciao, à samedi.
Claude de Saint-Brieuc, enseignant. J'appelle pour dire que cet après-midi, nous sommes bien le vendredi 31 mars. Il est 14h50, toute la ville de Saint-Brieuc est bloquée. Les sittings à tous les ronds-points. Et les jeunes n'ont pas l'intention de se laisser faire, et ils ont bien raison. Voilà un tout petit message pour information, pour que tout le monde sache que dans les belles provinces reculées de Bretagne, même Bécassine fait grève. Salut à tous.
Gilles de Robien sur France Inter, 13h15. Mais il aurait dû être menuisier, ce garçon. Ou alors, je sais pas moi, ébéniste. Parce que dans la famille Langue de Bois, on fait difficilement mieux. Et puis, voilà, en vrai, en fait, c'est pas Gilles de Robien, c'est Gilles de Noisbien le Poisson. Voilà. Gilles de Noisbien le Poisson sur France Inter, 13h15. À bientôt, salut.
Je viens d'entendre sur France Inter notre inénarrable ministre de l'Éducation, qui n'est plus national, qui venait donner une leçon de morale concernant la perturbation des cours dans les établissements scolaires. Et ce cher Gilles de Robien a dit texto « Je ne peux accepter certains comportements ». Et les lycéens que j'ai rencontrés aujourd'hui pendant 3 heures ont été très contents de saisir au bon la balle que je leur tendais. Notre ministre a dû louper certains cours, peut-être était-il dans les manifs, mais en tout cas, je ne peux accepter constitue une liaison mal à propos, comme on dit chez moi, et saisir au bon une balle que l'on vous tend, en dit long sur la manière dont on vous l'attend. Nous abrégerons donc le CPE de Gilles de Robien, mais par contre, nous ferons preuve de mansuétude en lui en donnant le motif. Pour un ministre de l'Éducation, il s'exprime comme un pied. Allez, à bientôt, c'est la lutte, et elle n'est pas finale. C'était Philippe du Jura.
Allô, là-bas, c'est ici, c'est encore Jonathan à Pontivy, au lycée Joseph Lotte. C'est toujours une super ambiance, on est encore super motivés. Il n'est pas question qu'on arrête maintenant, tant que c'est pas partiré, M. Chirac va promulguer ce soir. Et ça nous fout un coup de fouet là, on est super super motivés, écoutez ça, c'est vraiment génial quoi. Voilà, c'était un petit coucou à Daniel et puis à tous les auditeurs de France Inter. A plus.
Salut, c'est Daniel Mermel, à Bassy, j'y suis, avec Nicolas Beau et Olivier Tosseur, une imposture française. Flight number 2, arriving from New York. Alors, philosophe enseigné dans aucune université, journaliste mêlant le vraisemblable et le totalement faux, cinéaste de raccro, écrivain sans vraie œuvre littéraire, il est l'icône d'une société des médias où la simple apparence pèse infiniment plus que le fond des choses. Qui c'est ? C'est Bernard-Henri Lévy. Et Bernard-Henri Lévy est-il d'abord et surtout un brillant communicant, l'attaché de presse du seul produit qu'il sait vraiment vendre, BHL. Voilà, on va dire du mal de BHL pendant 1 heure jusqu'à 18h sur France Inter avec Nicolas Beau et Olivier Tesseur. Est-ce que c'est pas un peu monotone? D'abord, je vais vous présenter tous les deux. Nicolas Beau est journaliste au Canard Enchaîné, il faut dire la vérité, Nicolas. Oui. Et auteur de 2 bouquins, l'un sur notre ami Ben Ali avec Jean-Pierre Tucquois, il y a déjà un certain temps, et puis un autre sur Monsieur Pasqua, qui vous a valu 17 procès.
Absolument.
Que vous avez gagné, ou presque.
15 sur 17.
15 sur 17, c'est une bonne moyenne. Et puis, Olivier Tesseur, vous êtes journaliste au Nouvel Observateur et auteur chez Folio, enfin, maintenant chez Folio, d'un livre intitulé Argent public, fortune privée.
Voilà. Effectivement.
Voilà. Voilà qui vous êtes. Ça dit pas grand chose sur vous, d'ailleurs, ça, mais enfin, ça donne déjà une indication. Mais, ce que je viens de lire à la fin de votre livre, Une imposture française, en dit assez long quand même sur ce que vous avez voulu faire. Et puis le titre même de votre ouvrage, c'est publié aux Arènes, Une imposture française. L'imposture française, c'est BHL.
Oui, tout à fait. C'est, enfin, vous l'avez.
Olivier Tesseur, ça c'est la voix de Olivier Tesseur.
Vous l'avez bien résumé. C'est comment un journaliste qui mélange le vrai et le faux, comme un philosophe qui n'est enseigné nulle part, comment quelqu'un comme ça devient en quelques années l'arbitre des élégances du paysage médiatique français. On a voulu le savoir. On a donc enquêté là-dessus et on est tombé sur une espèce de système de clientélisme médiatico-littéraire qui fonctionne sur le donnant-donnant. Et en fait, Bernard-Henri Lévy apparaît partout parce qu'il a, grâce à ses bonnes relations avec les gens qui tiennent les médias en France, il a droit au tapis rouge sur toutes les télés, toutes les radios, dans tous les journaux. Et il a également, il s'arroge également le droit de d'empêcher la publication des articles qui lui déplaisent.
Est-ce qu'il n'y a pas, Nicolas Beau, un acharnement dans l'exécration contre BHL, qui d'ailleurs ne fait que renforcer son image et sa légende? Il y a 5-6 bouquins qui sont parus sur lui, sa biographie, pour en dire du mal la plupart du temps. Pas toujours, pas toujours.
Non, il n'y a pas d'acharnement parce que, au fond, BHL ne nous intéresse pas vraiment, ni ses idées, ni sa vie. Il nous intéresse comme symptôme donc du système médiatique. Et c'est médiatique, c'est passionnant, d'abord parce qu'on est des journalistes et donc on a envie que de produire de l'information dans des conditions quand même d'indépendance relative, mais réelle. Bon, et BHL est un parfait exemple de ce qu'on rencontre tous les jours dans notre métier, c'est-à-dire des réseaux d'influence qui, en raison de bonnes relations effectivement avec les patrons et les propriétaires des journaux et des télés, eh bien, se permettent de neutraliser une masse d'informations dont les lecteurs et les citoyens auxquels ils n'auront pas accès. Et c'est pour ça que ce sujet est pour nous inépuisable, parce que c'est le sujet de la citoyenneté, de la démocratie. C'est des mots un peu pompeux, mais c'est quand même vraiment pour ça qu'on a passé deux ans sur ce personnage. Et pour être très franc, c'est vrai que aujourd'hui, BHL, une certaine lassitude par rapport à cette espèce d'omniprésence partout, etc. Et on comprend, les gens nous disent pourquoi un nouveau livre. C'est simplement un livre sur les conditions de fonctionnement du système de presse et de médias.
La marque la plus achevée du système médiatique français, voilà ce que vous dites.
Oui.
Qu'est-ce que ce serait les autres marques, en fait?
De balancer tout
le monde. Non, mais il va falloir balancer. Par exemple, Nicolas Sarkozy, on sait qu'il a mis au point un système d'influence sur les médias absolument considérable, extraordinairement bien huilé. Donc, c'en est un autre. D'autres hommes politiques aussi sont parvenus à un assez grand contrôle de ce qui est dit sur eux ou sur leurs idées. Bon, et donc on a choisi cet exemple là parce que c'est un exemple quand même qui dure depuis 25 ans dans le paysage.
Alors, comment fonctionne ce système médiatique de BHL? Vous avez décomposé votre bouquin en trois volets: les réseaux de BHL, les affaires, c'est un aspect de son activité et de sa personnalité qui est un peu moins connu. Puis le troisième volet, mais ça c'est la fin, c'est presque un peu secondaire, c'est les idées.
Oui, les idées, oui, ça c'est un peu le troisième truc.
Les idées, on sait pas tellement, on les connaît pas tellement, ces idées sont très opportunistes, il est un peu, il va dans le sens du vent, donc voilà. Et ce qu'on explique dans le livre, c'est qu'il raconte à peu près tout sur n'importe quoi, donc ça nous intéresse assez peu. Mais si on reprend le premier élément, les réseaux par exemple, on peut expliquer très concrètement comment fonctionne BHL avec l'exemple du journal Marianne. Il y a quelques années, Marianne avait des problèmes de trésorerie et donc Bernard-Henri Lévy a proposé aux dirigeants de Marianne de les aider, et donc a réussi à convaincre son ami François Pinault de combler les problèmes de trésorerie de Marianne. Et quelques années plus tard, quand Jean-François Kahn, donc le fondateur de Marianne, a voulu s'est mis à écrire un petit article un peu acide sur Bernard-Henri Lévy, il l'a écrit effectivement, mais l'article n'a jamais été publié, parce qu'entre-temps, Bernard-Henri Lévy avait réussi à lui rappeler le petit service qu'il lui avait rendu quelques années plus tôt.
Pourtant, Jean-François Kahn n'est pas quelqu'un qui se dégonfle.
Normalement, non, ce n'est pas quelqu'un qui se dégonfle. Nous, on a écrit tout un chapitre sur cette histoire. Et je remarque qu'un mois et demi après la publication de notre livre, Jean-François Kahn n'a toujours pas répondu.
Vous citez au début du bouquin une histoire avec une journaliste de Elle qui fait un entretien avec BHL, et le papier est complètement réécrit.
entièrement réécrit parce que Bernard Henri Lévy
par lui-même, mais les questions aussi.
Exactement, réécrit ses réponses après avoir donné ses interviews et réécrit également les questions des journalistes et enlève des questions, enlève des réponses, tout ce qui lui plaît pas là. En l'occurrence, il y avait des questions sur son argent et des questions sur son manque d'humour, par exemple. Et ben, on n'a pas le droit de dire en France, en tout cas, que Bernard Henri Lévy est un homme qui n'a pas d'humour. Par exemple, on n'a pas le droit de le dire.
Dans les réponses qu'il a réécrites, il a rajouté des rires, entre parenthèses, se faisant rire lui-même, en quelque sorte.
Bon, il passe sa vie à se mettre en scène. C'est pas très grave, tout ça. Enfin, le fait de se mettre en scène soi-même, comme il le fait dans American Vertigo, son bouquin qui sort et qui est dans les meilleures ventes, hein.
Oui, il est seulement numéro 2. Alors, il doit avoir des crises d'urticaire, ce qui est assez fréquent chez lui, quand il est mécontent.
Ça, vous révélez dans le bouquin qu'il a des crises d'urticaire, le pauvre, à chaque fois qu'il a une contrariété. Donc j'espère qu'il n'écoutera pas cette émission. Mais ce que vous dites, c'est que Villepin, monsieur de Villepin, lui a dit vos crises d'urticaire ressemblent aux stigmates du Christ.
Voilà, c'était...
Mais il lui a dit ça sérieusement.
Il lui a dit ça sérieusement pour le flatter. C'était en 97, après l'échec absolu de son film Le Jour et la Nuit, qui est un nanar
retentissant.
Et donc, c'est à ce moment-là que Dominique de Villepin a rencontré Bernard Lévy et lui a fait croire que ces problèmes de peau, en fait, c'était les stigmates christiques. Et depuis, les deux hommes sont très, très amis.
Bonjour à vous, Bernard-Henri Lévy.
Bonsoir.
On se fixe une règle du jeu. D'abord, le mot règle du jeu va vous convenir.
Parfait.
On ne parle pas du personnage de Bernard-Henri Lévy ce soir.
Mais quel repos, quel confort,
ni de
quel bonheur et quelle chance pour les auditeurs. C'est tellement mieux de parler littérature.
Ni de l'écho qu'il provoque. On n'est pas obligé de prendre tout le menu quand on dîne avec quelqu'un. Voilà, donc on n'est pas obligé de dire qu'on est de la même bande, qu'on est
amis. Du même réseau, ça s'appelle.
Du même réseau. Je peux être intéressé par votre livre. C'est de
Bernard-Henri Lévy, bienvenue au grand rendez-vous.
Merci, bonsoir.
Bonsoir. Les livres sont souvent des armes de combat. American Vertigo, le vertige américain ou le vertige de l'Amérique, a provoqué, c'est évident, aux États-Unis une vive polémique. Il sort demain à Paris, dans quelques jours dans toute la France, et il suscite déjà un vif intérêt. Ce regard...
En taxon. Et tu veux que le chaud.
Lève-toi vite.
On va aller assez vite sur votre bouquin, d'abord parce que les auditeurs n'ont qu'à le lire, mais ce qui m'intéresse, c'est la suite, hein, c'est ce qui se passe depuis la publication, c'est ça qui nous intéresse le plus, c'est ce blog que vous tenez, où vous, chaque jour, vous racontez comment votre livre avance, recule, les critiques, les empêchements, etc. Mais restons encore un peu sur le bouquin, vous parlez des affaires, c'est-à-dire, vous avez tout un chapitre où vous dévoilez enfin des choses qui savent déjà un peu, mais là, vous allez plus loin, c'est très précis, sur le côté business de Bernard-Henri Lévy, chose qu'il n'a pas tellement envie de mettre en avant, bien sûr, puisque c'est d'abord un philosophe, c'est un bienfaiteur.
Il se présente comme d'abord un philosophe. Nous, on essaie de démontrer, et je crois qu'on a assez bien réussi, que c'est d'abord un homme d'affaires qui fait des livres. C'est un peu différent, c'est pas un philosophe qui a une fortune personnelle. C'est un homme d'affaires qui gère, qui a dirigé une entreprise, l'entreprise familiale de son père pendant quelques années, et qui aujourd'hui est un financier, qui fait des placements, qui achète, qui revend.
Ça, c'est pas un crime non plus d'être...
Ce n'est absolument pas un crime. Ce qui est très marrant, et c'est pour ça qu'on a beaucoup enquêté sur le sujet, c'est qu'il s'est toujours évertué à empêcher toutes les enquêtes autour de ça, qui est une des dimensions du personnage. Il a toujours, depuis, ça fait 20 ans, qu'il a réussi à masquer cette dimension du personnage.
Oui, puis dans la façon dont il a mené ses affaires, il y a quand même quelques scories, c'est-à-dire notamment dans la gestion de l'entreprise familiale, la Bécob, qui faisait du l'export-import du bois avec l'Afrique.
Ah ouais, c'est ça. Rappelons ce qu'est la Bécob. C'est une entreprise familiale montée par son père,
absolument,
André Lévy, et une entreprise importante, florissante, en Afrique, Côte d'Ivoire.
Oui, Côte d'Ivoire,
Cameroun,
exactement.
C'est ça. Et c'est une entreprise importante avec des salariés,
avec en tout cas des gens qui travaillaient sur ces immenses domaines. Et on a trouvé des rapports d'ONG qui montrent clairement les conditions dans lesquelles les salariés de la Bécob était exploité et traité par Bernard-Henri Lévy et son père, parce que Bernard-Henri Lévy ne peut pas prétendre qu'il n'est responsable en rien de cette gestion de la Bécob, puisqu'il y a été étroitement associé, et que même à la mort de son père, c'est lui qui a dirigé pendant 2 ans la Bécob, parce qu'il est, bon, il est très sourcilleux, on l'a entendu dans des émissions chez Guillaume Durand, etc., évoquer notre livre en disant « oui, ils s'en prennent à mon père, c'est indigne, etc. » On ne s'en prend pas, évidemment, à son père, on s'en prend à la gestion par son père et par lui de cette société d'import-export de bois avec l'Afrique. Mais parce que là, si vous voulez, ce qui est absolument choquant, c'est qu'un homme puisse se gérer comme ça ses affaires et après se présenter comme un parangon de vertu. Et...
Mais vous n'êtes pas les premiers à vous intéresser à ce côté du personnage. Des journalistes ont essayé, l'ont fait avant vous, hein, et puis...
Et puis, ils ont fait l'enquête et elle n'a jamais été publiée.
C'était dans
Entrevue à l'époque. C'était deux journalistes d'Entrevue qui s'étaient déplacés sur place, donc en Afrique, qui avaient fait l'enquête, qui avaient ensuite interrogé Bernard-Henri Lévy, posé les questions. Et au moment de publier, Entrevue étant la propriété du groupe Lagardère, Lagardère étant un ami proche de Bernard-Henri Lévy, et Bernard-Henri Lévy était intervenu auprès de Lagardère pour que le papier soit pas publié. Ils n'avaient pas pu le publier.
Et alors, dans la manche de Bernard-Henri Lévy, il y a toujours François Pinault. Et alors, là, vous citez quand même un truc qui nous concerne un petit peu, nous, sur France Inter, c'est que notre ami Guy Carlier, jusqu'en 1982, a été directeur financier. On savait qu'il avait un passé et d'autres vies avant celle qu'on lui connaît aujourd'hui. Mmh. Et il était directeur financier de la Bécob, la société forestière du père de BHL. Or, lors des funérailles de Jean-Luc Lagardère, Guy Carlier a fait un billet toujours bien torché, comme il sait le faire, en s'étonnant un petit peu qu'un philosophe fasse l'éloge d'un marchand d'armes, et il a cité BHL comme un pilleur de forêts africaines.
C'est lui qui l'a écrit, absolument, qui l'a dit à France Inter, sur l'antenne de France Inter, absolument.
Et il y aurait eu, selon vous, je vous cite toujours, des pressions de Pinault sur Stéphane Bern.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire que à partir du moment où donc Guy Carlier s'est dévoilé et a attaqué une première fois à l'antenne Bernard-Henri Lévy sur son passé d'exploitant forestier, là BHL s'est dit attention, il y a danger. Donc il fallait essayer en tout cas de faire taire Guy Carlier. Comme Guy Carlier travaillait avec Stéphane Bern et que Stéphane Bern est un ami de François Pinault qui lui-même est un ami de BHL, voilà, BHL est intervenu auprès de François Pinault. François Pinault a mis en garde Stéphane Bern pour que Stéphane Bern mette en garde Guy Carlier. Vous voyez, c'est un peu compliqué, mais ça fonctionne toujours comme ça. BHL trouve toujours le lien pour faire passer ses messages.
Essayez d'être plus malin que les malins, plus voyou que les voyous. Je suis absolument pour cette façon de pratiquer le métier. Voilà, c'est ce que disait Bernard-Henri Lévy dans Libération le 24 avril 2004. C'est tout récent, c'est sa conception de...
Oui, il a une espèce de franchise.
Ça pourrait être de l'humour, mais quand on sait qu'il a un humour particulier...
Ce n'est pas de l'humour, c'est de l'impunité, en fait. C'est sentiment d'impunité. C'est-à-dire qu'il arrive quand même à dire des choses assez énormes comme celle-là, mais il sait que ce ne sera pas repris, que personne ne se scandalisera. Tout le monde a l'habitude, maintenant.
Oui, il a dit aussi, ce qui est quand même assez surprenant pour un écrivain, philosophe et journaliste, il a dit la vérité, le mensonge, tout ça n'a pas beaucoup d'importance. La littérature est un art guerrier. Il faut gagner.
Voilà. Il faut gagner. Et puis aussi, l'encre sèche très vite.
Oui, l'encre est si vite sèche. Voilà, ça, lors de notre rencontre avec lui, vous l'avez répété cette formule plusieurs fois.
Oui. Alors, vous l'avez rencontré deux fois pour cette
deux
enquête.
Fois. Bon, l'entretien s'est bien passé. C'est un homme qui sait être courtois, qui même toujours un bon mot, une anecdote à raconter, et puis il cherchait visiblement à nous séduire. Bon. Dans un premier temps, il essaie de séduire ceux qui pourraient se dresser contre lui, et puis une fois qu'il se rend compte que ça ne servait à rien, à ce moment-là, on fait partie de ses adversaires irréductibles, et il a la haine tenace.
Mais vous êtes journaliste, enfin on est journaliste tous les trois, Bernard-Henri Lévy, c'est aussi quand même la figure du grand reporter, hein, qui est tantôt en Afghanistan, qui est tantôt en Algérie, et qui est tantôt en Bosnie, enfin, c'est quand même la figure du grand reporter. Et puis, cette image, vous l'écornez quelque peu.
C'est un grand reporter un peu particulier, qui, lorsqu'il va en Bosnie... il va dans les Transvaal de l'armée française. Lorsqu'il dit qu'il va en Afghanistan, en fait, il reste à la frontière dans la zone tribale du Pakistan parce que l'ambassade de France a fait attention qu'il ne prenne pas de risques. Lorsqu'il va en Algérie, c'est sous comme protection de la sécurité militaire et pour dire du bien du régime des généraux. Bon, voilà.
Mon ami de 20 ans, dit-il de Massoud, en fait, il l'a pas tellement rencontré.
Non, en fait, il a longtemps essayé de faire croire qu'il connaissait Massoud depuis les années 4, depuis les années 80. C'est entièrement faux. Il est allé une première fois, donc, à la frontière de l'Afghanistan, même pas en Afghanistan au moment de la guerre avec l'Union soviétique, mais il n'avait pas rencontré Massoud du tout. Il n'était pas rentré dans le territoire, dans la vallée du Panjshir. Il l'a rencontré pour la première fois en 98. Et commandant Massoud est mort en 2001.
En 85, son nom apparaît dans cette pétition publiée dans Le Monde. Il y soutient Ronald Reagan dans son intervention au Nicaragua et son aide aux Contras. Les Contras, des rebelles sanguinaires qui tueront des milliers de personnes. Sur les interrogations que suscite son parcours, Bernard-Henri Lévy répond.
Je n'ai jamais signé cette pétition.
Mais votre nom était dedans, quoi.
Je n'ai jamais, c'est pas vrai. C'est pas vrai.
C'était dans Le Monde en 1985.
Vous avez la.
Oui.
Oui.
Voilà un petit extrait d'une émission de Canal+, présentée par Frédéric Dupuis, qui s'appelait Enquête de personnalité. C'était en 2004. Voilà un aspect du personnage.
Oui, sur cet épisode du soutien aux Contras, qui sont quand même des rebelles sanguinaires, on va dire. Nous, il nous a dit que certes son nom était apparu dans la pétition, mais c'était pas de sa faute. C'était quelqu'un qui avait usurpé son nom. Bon, tout ça est un peu n'importe quoi, puisque Bernard-Henri Lévy n'a jamais, à l'époque en tout cas, essayé de rectifier une éventuelle erreur où son nom aurait été usurpé.
Alors on continue avec le bouquin de Olivier Tesseur qu'on vient d'entendre, Nicolas Beau, Une imposture française, publié aux Arènes, sur Bernard-Henri Lévy, sa vie, son œuvre, et surtout les médias autour. Ce qu'on vient de dire, c'est cette trouille des médias, des journalistes, des responsables de rédaction. Ce que vous dites, Nicolas Beau, c'est que c'est plutôt les responsables de rédaction qui ont peur, alors que la piétaille nous sont partis a tendance quand même à essayer de pousser le truc. C'est pas toujours le cas. Dans votre blog, où vous racontez comment Le Parisien, qui est un bon journal, un quotidien populaire de bonne qualité, comment les rédacteurs se sont tous couchés, quoi.
Non, ils ne se sont pas couchés pendant l'entretien. L'entretien a été bien mené, notamment ils ont demandé à Bernard-Henri Lévy pourquoi, dans son livre American Vertigo, il n'abordait pas du tout les questions économiques et sociales aux États-Unis. Et alors il a répondu, mais si, j'ai fait des portraits. Alors le journaliste du Parisien a repris, vos portraits, ce sont trois portraits de milliardaires. C'est comme si on parlait de la situation sociale en France en faisant les portraits de Monsieur Lagardère, Pinault et Arnaud. Bon. Donc les questions étaient pointues. Le seul problème, c'est que ça, le lecteur du Parisien ne l'a pas lu, parce que l'entretien a été entièrement réécrit, les réponses comme les questions, ce qui d'ailleurs a provoqué un certain émoi au sein de la rédaction du Parisien, qui a protesté auprès de la direction. Alors pourquoi le Parisien, qui est un bon journal, très indépendant, comment Lévy a réussi à séduire la direction du Parisien? Bien simplement, le patron de la rédaction du Parisien est régulièrement invité à des voyages, des dîners par... une dame qui s'appelle Anne Méo, qui est une femme extrêmement puissante, une grande prêtresse de la communication en France, et qui défend, parmi de nombreux clients, François Pinault. Et donc, voilà.
Et donc, c'est là que les journalistes se couchent, quoi. Ils acceptent que leur truc sorte...
Non, parce qu'ils ont protesté le lendemain matin. Ils ont été voir les rédacteurs en chef.
Oui, mais ça, ce que vous dites, c'est que le lecteur ne le saura jamais, cette démarche.
Mais c'est pour ça qu'on écrit ce blog tous les jours. Parce que, si vous voulez, la pratique, quand on regarde comment se passe la sortie effective d'un livre de Bernard-Henri de près, eh ben, on est presque nous-mêmes qui avons écrit ça. On est surpris. On a écrit la théorie, mais la pratique va beaucoup plus loin. On était en deçà.
Si on va venir à la pratique. Vous avez, dans votre bouquin, on va venir à ce blog, ce qui s'est passé depuis la publication du bouquin. Restons encore un petit instant sur le bouquin. Il y a tout le côté citizen, ce que vous appelez citizen BHL. C'est tout son côté cinéma. Il faut rappeler que BHL est président du conseil de surveillance d'Arte. Il a été nommé là par Alain Carignon, ministre de la Culture sous Balladur. Et c'est une des casquettes avec laquelle il jongle, hein. Il a ça, l'édition, les médias, il a son bloc-notes hebdomadaire. Ça fait quand même un tas de moyens de pression.
Exactement. Et il utilise, par exemple, sa position dans le cinéma pour se faire de nouveaux obligés. Puisque, voilà, Arte, au CNC, il manipule un peu tout ça. Donc, il peut débloquer de l'argent public pour lui, pour ses films, pour ses propres productions.
Pour les films d'Ariel, quand même.
Pour les films d'Ariel. Pour les films d'Ariel Dombal, c'est sa femme. Et pour ses amis aussi. Ou pour ses ennemis, qu'il veut retourner et en faire ses amis.
Alors, venons-en maintenant à ce qui s'est passé après la sortie de votre bouquin. Il est sorti quand, le livre ?
Fin février, le 23 février.
Le 23 février, et depuis le 23 février, vous tenez sur le site des Arènes, Les Arènes, qui est votre éditeur, un blog quotidien, c'est-à-dire que vous racontez tout ce qui se passe. Mais nous, on avait prévu ce qui allait se passer. Le 15 décembre, dans la Basse, si j'y suis, on avait un certain Serge Halimi, qui est journaliste au Monde diplomatique, et qui avait prévu ce qui allait se passer pour la sortie de ce bouquin américain de Vertigo.
Je peux vous proposer tout de suite une exclusivité, annoncer à vos auditeurs ce qui se passera au mois de mars dans leur vie. Parce que en janvier prochain, Bernard-Henri Lévy sort aux États-Unis un livre sur Tocqueville, qui va être traduit et publié en France. Bon, vous savez que Bernard-Henri Lévy a été Malraux, puis Sartre, puis Daniel Pearl, donc maintenant il sera Tocqueville. Alors soyez prêts, hein, déjà, parce qu'on va vous en parler de ce livre. Le jour de sa sortie, à mon avis, hein, je prends les paris. Il sera interrogé par Jean-Pierre Elkabbach sur Europe 1. Jean-Pierre Elkabbach a expliqué, dans un entretien en Figaro Magazine, « J'ai mieux qu'un réseau des fidélités solides, Alain Duhamel, Jean-Luc et Arnaud Lagardère, Bernard-Henri Lévy, Michel Drucker. » Donc il sera invité par son ami, il fera la une du Point, où il est chroniqueur, et le soir, vraisemblablement, il fera la une du Monde des Livres. France 2 l'invitera, soit dans son journal télévisé, si PPDA et TF1 ne se sont pas proposés avant, soit dans l'émission politique du lundi soir, qui, miracle, traitera de la démocratie en Amérique, puisque ce sera le thème du livre de BHL. Samedi, selon toute vraisemblance, il sera chez Ardisson, qui le convie chaque fois qu'un de ses livres sort. BHL, d'ailleurs, apprécie beaucoup plus les émissions d'Ardisson depuis que Ardisson dispose d'une émission qui fait un très gros audimat. Dimanche, vous le retrouverez chez Carl Zero, son ami et acteur dans un des films de BHL, et peut-être même vous le retrouverez le même jour chez Michel Drucker. Puisque Gisbert lui a offert la une du Point, dont Gisbert est directeur, le même Gisbert risque d'inviter, que dis-je, de supplier BHL de venir à son émission de copinage littéraire ou pseudo-littéraire sur la télévision publique, financée par la redevance, c'est-à-dire par chacun d'entre nous. J'ai rien dit du Nouvel Observateur. Au moins 2 pages, sans compter les recommandations de Jacques Julliard, Jean Daniel, qui croit connaître l'Amérique comme à peu près chaque journaliste français qui a passé 3 jours à New York, se penchera sur Tocqueville, la démocratie, et y rappellera sans doute qu'il a interrogé Kennedy. Paris Match, dont le directeur, s'il l'est encore en mars, Alain Genestard, on a évoqué qu'il était menacé, Alain Genestard a commis un roman sur les États-Unis, donc il nous offrira vraisemblablement dans Paris Match un reportage photo BHL en Amérique. On verra peut-être BHL avec son chauffeur, parce qu'il semble qu'il ait fait son enquête avec une voiture à chauffeur. Nicolas Sarkozy, DSK, Dominique de Villepin et Laurent Fabius, qui sont tous des amis de BHL, nous diront le plaisir qu'ils ont eu à le lire, une nouvelle fois. Marianne produira son article habituel, type « Tout le monde dit du bien de BHL », eh bien, nous ne faisons pas comme tout le monde, mais là, cette fois, il faut bien reconnaître que BHL a fait œuvre de génie. Et Maurice Zaffran, directeur de Marianne, pourra écrire cet article comme il a écrit tous les précédents à la gloire de BHL. Bon, alors France Inter, on va parler de France Inter. France Inter voudra inviter BHL, mais sera mécontent qu'il ait réservé sa première émission de radio à Elkabbach et à Europe 1, radio qui appartient à Lagardère, dont BHL est un proche. Il faut rappeler que BHL a prononcé l'éloge funèbre de Jean-Luc Lagardère en 2003 et que Lagardère et Pinault ont produit certains des films de BHL. Donc peut-être que France Inter se fera une raison et invitera BHL quand même. On dira du bien de son livre, comme on en a dit des précédents.
Voilà, alors ça c'était le 15 décembre dans la Basse, si j'y suis, Serge Halimi. On va voir aujourd'hui, on est le 31 mars. Alors Olivier, te sers, est-ce que Halimi s'est trompé ou pas?
C'était assez bien vu, il avait assez bien vu les choses. Elkabbach, oui, c'est vrai, absolument, il est invité à Elkabbach. BHL a fait également la une du Point, il n'y a aucun problème. Non, il n'a pas eu la une du Monde des Livres, par contre, pas cette fois-ci. Mais après, le 20h de France 2, oui, effectivement, BHL au 20h de France 2. Ardisson, évidemment, il y est d'ailleurs une fois par an, hein, même quand il sort pas de livre, il vient une fois par an. Carl Zero, non, cette fois-ci, non, Carl Zero n'a pas été
Mais il commence à sentir un peu le poisson, Carl Zero.
Voilà, un petit peu, il est moins important. Drucker, pas encore, Gisbert, l'émission de Gisbert, non, et même, j'ai même, oui dire que Gisbert a l'intention de ne pas l'inviter dans son émission. En fait, il va peut-être être obligé, parce que Gisbert, c'est le patron du Point, le Point, c'est Pinot, donc Pinot, c'est BHL, donc il va peut-être être obligé, mais ce sera plus ou moins son corps défendant, d'après ce que je sais. Hein.
Mm-hmm. Il est numéro 1 dans la liste des ventes, Gisbert, donc évidemment, il servir les plats du numéro 2, BHL,
qui risque de doubler.
Oui, il y a des conflits secondaires du monde des médias.
Alors, c'est Serge Halimi, c'était juste un peu trompé sur le Nouvel Obs, parce que effectivement, il y a eu 6 pages sur BHL dans le Nouvel Observateur, mais plutôt négative. Jacques Julliard n'a pas pris position et Jean Daniel n'a pas encore, en tout cas, dit ce qu'il pensait d'American Vertigo.
Dit Olivier Teussart, qui travaille au Nouvel Obs, il va croiser tous ces gens-là dans les couloirs tout à l'heure, il a pas envie de se fâcher.
Non, mais enfin, je dis ce qui est, il suffit de regarder dans le journal. Paris Match, pas encore, hein, BHL n'est pas encore dans Paris Match. Marianne, évidemment, 6 pages sur American Vertigo pour dire que c'est un chef-d'œuvre, en gros. Et puis France Inter, ben, grosse offensive à France Inter, en fait, de BHL ce mois-ci.
Ça n'a pas commencé pour l'instant.
Non, ça n'a pas commencé. Ça commence dimanche.
Et celui qui commence, on ouvre le feu.
Exactement.
Avec vous. Il faut rappeler qu'American Vertigo a pour but et idée de retraverser les États-Unis sur les pas de Tocqueville. Ça a été quand même un éreintement par la critique américaine à la tronçonneuse.
Ah, c'était éreinté.
Les critiques américaines ont descendu son bouquin, à commencer par les spécialistes de Tocqueville. Il y en a quand même quelques-uns aux États-Unis qui n'ont pas du tout retrouvé le bonhomme, ni son idée, ni son approche, en rien.
Personne n'a retrouvé Tocqueville dans la prose de BHL, qui s'est fait massacrer par la critique américaine.
Alors vous dites, non sans ricanement, et ça vous l'écrivez sur votre blog le 6 mars, que le bouquin est déjà en solde aux États-Unis.
Oui, un mois après la sortie aux États-Unis, il était en solde, il fallait écluser les stocks.
Et contrairement à ce qu'il dit, il est 853e sur le classement Amazon.com. Bon, il y a beaucoup de mensonges quand même, ça fait quand même pas mal d'abus.
Non, si vous voulez, le plus impressionnant pour nous, c'est de voir que des personnalités supposées indépendantes et au-dessus de tout soupçon ont lui apporté un concours massif dans des conditions quand même très particulières. Il y en a un qui m'a particulièrement là vraiment choqué, c'est le patron de Reporters sans frontières, Robert Ménard. Bon,
ça, c'est une chose que Halimi n'avait pas prévu.
Non,
il est bon notre Serge, mais il n'avait pas prévu que Bernard-Henri Lévy aurait la couverture de médias.
Absolument, Média, qui est la revue de Reporters sans frontières.
Ça touche pas un très grand public, mais ça touche les journalistes. Enfin, les journalistes le reçoivent.
Ça touche les journalistes. Alors, on savait que Robert Ménard avait les meilleures relations avec Bernard Olivy, ainsi qu'avec PPDA. Bon, c'est assez normal, peut-être, pour défendre la cause de certains journalistes à l'étranger, en Russie, en Tunisie, au Maroc, etc., de solliciter l'appui de personnalités médiatiques. Bon. Que dans son journal, sa revue sur la presse, bon, il publie un grand entretien avec Bernard Lévy qui lui a rendu un certain nombre de services. Bon, pourquoi pas, si vous voulez, faut pas être plus royaliste que le roi. Mais que dans cet entretien, Bernard Lévy nous massacre et nous traite de journalistes haineux et franchouillards. Bon, là, ça devient quand même plus problématique pour un mouvement qui défend les journalistes. Et que le titre nous concerne, puisque le titre de la revue, c'est « Pourquoi tant de haine ?» On voit maintenant en Libye, « Pourquoi tant de haine ?» Et que cette couverture soit placardisée dans tous les kiosques parisiens, etc., avec Dieu sait quel argent. Alors, l'argent, justement, parce que en Libye, il y a toujours une petite aide qui vient avec son appui. Et en fait, Robert Ménard, actuellement, cherche des financements pour sa revue Média. Et il est en relation avec Hachette, le groupe Hachette Lagardère. Et Bernard Olivier, actuellement, est le go-between entre Robert Ménard et le groupe Hachette. Voilà. Voilà ce qui nous vaut, ces placards.
D'être un livre bâclé, bourré d'erreurs, franchouillard et bêtement haineux. Ça, c'est vous.
C'est nous.
Voilà ce qu'on reçoit dans la
Pour un mouvement qui défend les journalistes, ça pose quand même un sacré problème.
Alors, le 21 mars, je continue à lire votre blog. Le 21 mars, vous racontez le 7e entartage de BHL. C'était au Salon du Livre. Et là, le gloupier, c'est ça, c'est gloup, 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 entarton, le pompeux cornichon. Et ça marche une fois, et ça remarche une deuxième fois. Et BHL, que vous critiquez beaucoup, est quand même le
plus entartés de l'histoire de l'entartage.
Absolument, il faut quand même lui accorder quelque chose. Alors, en fait, le Gloupier, qui est le maître d'œuvre de ces attentats pâtissiers, nous avait expliqué très concrètement que un jour, il avait proposé à Bernard-Henri Lévy une espèce d'armistice de l'entartage, mais à condition qu'il aille sur un plateau de télévision avec sa femme et qu'il chante « Avez-vous vu le chapeau de Zozo ?»
C'est une jolie chanson.
De Maurice Chevalier, je crois.
Mais oui, bien sûr, bien sûr.
Ce qui est amusant dans l'entartage du Salon du Livre, c'est que Bernard-Henri Lévy, qui est un pragmatique, était venu avec une chemise de rechange. Donc, premier entartage, il disparaît, il revient avec une nouvelle belle chemise blanche. Non et mais pas de chance pour lui, parce que les entarteurs ont frappé deux fois, et là, il avait plus de chemise de rechange, il a dû partir.
Dans la sortie là de votre bouquin, il y a aussi quand même cette histoire avec la FNAC. Et la FNAC appartient à qui donc?
La FNAC appartient à François Pinault, donc un petit peu à BHL aussi, donc finalement. En fait, on s'est aperçu un jour que, par exemple, un jour, on a disparu du site internet de la FNAC, fnac.com. On leur a posé la question, ils ont dit, écoutez, il doit y avoir eu un bug informatique ou quelque chose comme ça, ça arrive de temps en temps. C'était arrivé à Albin Michel, c'est ce qu'ils nous disent, avant vous. En fait, Albin Michel n'a jamais eu d'incident comme ça. Donc, ensuite, plusieurs magasins de province avaient des difficultés d'approvisionnement. Les livres arrivaient pas, mettaient 10 ou 15 jours à arriver, ce qui est assez important comme délai, surtout sur un livre qui vient juste de sortir et qui est en stock. Et puis enfin, on s'est aperçu aussi qu'on était vendu, on était référencé en tout cas au rayon philosophie. C'est assez satisfaisant pour l'ego d'avoir fait un livre de philosophie, mais c'est pas un livre de philosophie qu'on a fait, une imposture française, c'est une enquête médiatique. En général, quand on rentre dans les magasins de Fnac, on arrive d'abord sur les panneaux actualité où figure American Vertigo justement.
Et on le livre d'un grand philosophe.
Voilà, donc la conclusion, on peut penser qu'on a été un peu boycotté par la Fnac, et on a réussi à retrouver deux anciens dirigeants de la FNAC qui nous ont expliqué qu'effectivement, deux, trois fois par an, François Pinault donne des ordres pour soit pousser un livre qu'il aime ou qui sert ses intérêts, soit au contraire freiner sa diffusion.
Au compte-goutte, deux, trois fois par an, on ne peut pas crier à la censure du pouvoir, du grand capital. Non, c'est une petite censure comme ça, mais extrêmement désagréable.
Bon, alors on va conclure quand même que on n'est pas là ni vous ni moi pour démolir ce grand philosophe et cet écrivain, mais essentiellement quand même pour raconter à travers, comme vous l'avez utilisé un peu comme un miroir, où on peut voir ou vous montrer le système médiatique français qui s'écrase quand même assez souvent.
C'est quand même
très très préoccupant ça.
Oui, tout à fait. Les dysfonctionnements du système médiatique sont tous résumés dans le traitement que réservent les médias français à Bernard-Henri Lévy. Donc comme on disait au début de l'émission, Bernard-Henri Lévy, mais aussi à Nicolas Sarkozy et à d'autres, il y a certaines personnalités comme ça qui sont protégées. Comment se fait-il par exemple que tout en passant près de 5 heures à la télévision en un seul mois, aucun animateur vraiment ne lui a posé des questions sur notre livre, lui a demandé de répondre aux accusations, aux informations, aux révélations qu'on a écrites sur lui.
C'est d'autant plus paradoxal que Bernard Olivier, aux États-Unis, où il a été donc agressé par la critique américaine, a écrit au New York Times, mais moi je demande un débat, je veux qu'on débatte des critiques qui me sont faites, je suis prêt à répondre, mettez-moi face à ces interlocuteurs qui m'attaquent. Bon, et donc ce qui est bon pour le débat démocratique aux États-Unis, apparemment n'est pas bon ici.
Il y a une chose dont on n'a pas parlé et qui nous touche, nous, à la basse justice, parce qu'on est amis depuis longtemps avec Marianne Pearl, l'épouse de Daniel Pearl, journaliste. Elle vous a écrit, Marianne Pearl, qui ne s'est pas prononcée sur le livre que Bernard-Henri Lévy a consacré à son mari, assassiné au Pakistan. Vous donnez un extrait du bouquin de BHL avec quelle complaisance il décrit l'exécution de Daniel Pearl.
Il sait très bien que c'est la famille de Daniel Pearl ne supporte évidemment pas ces images et ne supporte pas qu'on en parle.
Et Marianne, dans le mail qu'elle vous a adressé en juin dernier, résume un peu tout sur BHL, un homme dont l'ego détruit l'intelligence. Je vous remercie tous les deux.
Merci beaucoup.
Merci.
Avez-vous vu le nouveau chapeau de Zozo? C'est un chapeau à vapeur rigolo. Sur le devant, on a posé trois plumes de paon. Et sur le côté, un amour de perroquet. Pour être original, il est, je vous le jure. Ce n'est n'est pas le pipi de n'importe qui. À le voir si beau, tout Paris répétera bientôt. Avez-vous vu le chapeau de Zozo?
Voilà, il suffit qu'ils chantent ça tous les deux et c'est terminé, ils sont plus entartés. Merci en tout cas à Nicolas Beau et Olivier Tosser pour ce leur livre qui sort Une imposture française aux éditions des Arènes. Technique aujourd'hui Ludovic Asselot et Yves Caron. Christophe Imbert s'occupe du répondeur. Notre assistante c'est toujours Pascal Pascariello et c'est Antoine Chaoyan Chouquet qui ont réalisé cette émission modeste et géniale. Le numéro du répondeur, vous le connaissiez, c'est le 01 56 40 37 37. Réclame.